Bonjour, vous êtes bien sur Radio B 90 FM, la radio des bonnes ondes, avec Patrice Perrin, l'amoureux des lettres, pour son émission au Café littéraire, celle du mois d'octobre. Au sommaire de cette édition, deux romans incisifs et différents sur la Grande Guerre. Oui, j'y reviens parce que c'est tellement événementiel. Deux autres romans, l'un de Joyce Maynard et l'autre de Patricia Falvey. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais c'est à découvrir. Et enfin, nous retrouvons la voix toute singulière de Léonore de Recondo en cinquième position. Donc, Les Enfants de Cadillac, c'est de François Nudelman. C'est le premier roman que j'ai choisi consacré à la Grande Guerre. Ensuite viendra Une certaine raison de vivre de Philippe Torreton, deuxième roman de cette Grande Guerre. Philippe Torreton, que vous connaissez peut-être, puisqu'il est acteur et il est commentateur parfois à la télévision. Voilà, donc paru chez Robert Laffont. Alors je commence par Les Enfants de Cadillac de François Nudelman, qui vient de paraître chez Gallimard. C'est un premier roman important et époustouflant qui a la forme d'un récit qui repose sur le fait qu'il n'est pas bon d'être juif et de vivre en France aujourd'hui au XXIe siècle. Après les meurtres, vous vous en souvenez, après les meurtres barbares de 2006, 2012, 2015 et 2017, de nombreux juifs ont changé de quartier ou d'autres sont partis vivre en Israël. D'autres encore, c'est le cas de François Nudelman, décident de changer de continent et d'aller vivre dans la ville haute, à New York, en Amérique donc, où toutes les races et tous les genres semblent vivre librement. On ne parle pas de racisme, mais pour les Juifs, ben, ils peuvent vivre librement à New York, côte à côte. Mais le passé rattrape le narrateur, donc François Nudelman, sur forme d'une lettre qu'il reçoit de Martine Bajol. Ça, ce n'est pas une chimère, c'est un nom réel. Elle a fait tout un travail remarquable, cette Martine Bajol, et elle l'invite pour l'inauguration du cimetière des oubliés de Cadillac. Voilà pourquoi dans le titre, on trouve Les Enfants de Cadillac. Le titre de ce roman. Oui, parce que ce cimetière a failli être totalement détruit parce qu'on voulait construire un immeuble à la place, mais heureusement, des associations se sont élevées et on a au contraire réaménagé complètement ce cimetière des oubliés de Cadillac. Et comme à propos de Chaim, qui est le grand-père de François Nudelman, qu'il découvre qu'il a un grand-père, Chaim Nudelman, et qu'il est enterré, plus ou moins, mais il figure en tout cas sur la plaque commémorative de ce cimetière des oubliés de Cadillac. Alors commence pour lui une enquête minutieuse. Il va revenir en France sur cet homme qui a fui en 1911 les persécutions contre les Juifs en Lituanie. Voilà. Alors il arrive en France avec une carriole, il est livreur. Afin d'obtenir, il voudrait obtenir la nationalité française, il veut devenir français. Mais pour cela, il faut qu'il s'engage dans l'armée. Et donc, comme nous sommes à la veille de la Grande Guerre en 1911, donc il va prendre part à la Grande Guerre. Voilà pourquoi Je parle de la Grande Guerre par lui. Alors il combat, il fait toute la guerre. Il est grièvement blessé par une bombe chimique. Donc il revient sur Paris. Et il va passer 20 ans interné après avoir perdu la raison, selon son épouse, Marie Noudelman, d'ailleurs qui va plus ou moins divorcer parce que c'est une maîtresse femme et elle trouve que son mari n'en a plus sa tête, qu'il est tantôt là, tantôt absent, qu'il ne parle pas parce qu'il ne peut pas raconter les horreurs qu'il a vécues, qui lui reviennent par moments. Donc il est interné d'abord à Sainte-Anne, mais c'est une, je dirais, une bonne hospitalisation, dans la mesure où il y a des moments où il peut sortir et voir son fils Albert. Donc communiquer quand même avec son fils Albert. Puis ensuite il ira à Villers-Vrard, avant d'arriver à Cadillac, en Gironde. En fait, on va se débarrasser de lui à propos de nourriture. La nourriture manque à cette époque-là et on l'envoie à Cadillac, en province. Cela à nouveau, une description remarquable des soins apportés aux malades du cerveau, considérés comme des fous ou dangereux par moments. Et il va mourir. Alors c'est vrai que j'insiste sur ce roman parce que on a une très très belle description faite sur la façon dont étaient soignés ces malades, avec même les noms des médecins. Et on voit apparaître le jeune Jacques Lacan sur les soins apportés à ces gens désorientés. Et puis donc on verra après à Cadillac sur l'hygiène et la nourriture qui manque parce que les soignants le plus souvent sont corrompus et s'arrangent pour avoir... ils sont vraiment maltraités, c'est un mot qui ressort même aujourd'hui. Voilà, donc avant d'arriver à Cadillac en Gironde... Et il meurt, ce Chaïm Noudelman, et il meurt dans l'anonymat le plus total, à l'hôpital psychiatrique de Cadillac, en 1941. Il avait 50 ans. Voilà. Son fils Albert, dont je vous dis qu'il avait pu le voir de temps en temps, son fils Albert... le père du narrateur, oui, de François Noudelman. Et lui, il va participer en 1940. En 1940, il est à Paris. Et il va participer, mais malheureusement, à cette Seconde Guerre mondiale, en 1940, parce qu'il est dénoncé comme juif. Et il est fait prisonnier, il va être déporté, et il survivra dans les camps de la mort, où il est aussi maltraité, parce que c'est vrai qu'on lui fait des travaux de force, on lui organise des travaux de force. Il arrive quand même par moments à se libérer, mais il est repris, et puis donc ça va durer cinq ans, de survivre dans des conditions vraiment épouvantables. Alors, il va quand même rejoindre, au moment de la libération, il va rejoindre la France à pied depuis la Pologne, où il était enfermé. C'est donc une véritable épopée qui nous est contée dans ce roman « Les enfants de Cadillac » de François Noudelman. Donc c'est vraiment à lire. Et lorsqu'il arrive en France, bon, il échappe comme aux soldats nazis qui étaient en déroute. Il échappe aussi aux militaires russes parce qu'il va être libéré des camps par les Russes, mais ils sont avides. Et ils voudraient bien s'enrichir aussi au détriment des hommes en fuite égarés. Le retour en France sera vécu douloureusement par l'attitude incompréhensible des Français. Pour Albert, c'est vrai, ils ne peuvent pas imaginer ce qu'il a vécu. Il continue à vivre que là, ça y est, la guerre est finie, comme si tout rentrait dans l'ordre, alors que il y a plein de cauchemars, il y a plein de bons, c'est difficile. Alors il va quand même se lancer dans les affaires de commerce. Et puis il va même se marier, même si son fils François le lui déconseille, parce que il voit bien qu'il a envie de trouver un nouveau statut et par un mariage comme ça. Mais un mariage qui ne va pas très très bien se passer. Je ne vous en dis pas plus, vous le découvrirez dans ce livre en vain. Comment ça va mal se finir pour lui, pour Albert Nudelmann. Et c'est à travers les destins croisés et étonnants de son grand-père et de son père que l'auteur questionne son identité française. C'est vrai, c'est important, française et juive, parce que il était, je vous l'ai dit, parti en Amérique parce qu'il pensait que c'était pas que pour lui, que sa nationalité française n'était pas très très importante, mais là. En revenant sur son grand-père et sur son père, il comprend qu'il est juif et français. Voilà. Donc je voulais vous le dire. Et nous aussi, les devenus lecteurs assidus de ce roman, nous nous posons des questions aussi sur notre identité française. Voilà. Je peux passer maintenant au deuxième livre que j'avais prévu de vous présenter. C'est Une certaine raison de vivre de Philippe Torreton qui vient de paraître chez Robert Laffont. Avec ce nouveau roman, Philippe Torreton nous fait revenir sur cette période de la Grande Guerre qui a marqué profondément les esprits. Son héros s'appelle Jean Fournier. Il revient indemne physiquement, mais broyé de l'intérieur par ce qu'il a vécu dans les tranchées, dans cet enfer de la Grande Guerre. Par le traumatisme des horreurs, et avec ses camarades dont certains y sont restés, ce Jean Fournier est broyé de l'intérieur, mais il n'est pas fou, hein. Il devient taiseux, il ne peut pas parler, il ne peut pas exprimer. Mais démobilisé, il fait tout ce qu'il peut pour y croire encore, croire qu'un avenir est encore possible après 5 années à voir et entendre ce que des yeux et des oreilles de 20 ans ne devraient pas avoir à saisir. Voilà. Il retrouve un emploi discret dans une banque, tout en haut dans les archives. Pour un temps, ça lui convient. Heureusement, il a plusieurs atouts dans sa manche, contrairement au Albert de Nudelmann qu'on avait vu. Il a plusieurs atouts dans sa manche. Tout d'abord, l'écriture, voilà, c'est un sujet important pour lui, par sa passion du verbe et des mots, et puis le souvenir de Jean Giono et de Elzéar Bouffier, le berger, l'homme qui plantait des arbres. C'est une magnifique histoire que nous avait racontée Jean Giono. De quoi constituer toute une belle forêt, simplement en plantant des glands d'arbres de chêne, et puis peu à peu une grande forêt, une belle forêt sortie de terre. Et il avait rencontré, lui, Jean Fournier, il avait rencontré ce Elzéar Bouffier 1 an avant la Grande Guerre. Entre Manosque et Bannon, où il avait été marché sur les pas de Jean Giono. une figure devenue une légende vivante. Je me souviens d'émissions de radio où cette histoire nous avait été contée à la radio et que beaucoup de gens avaient téléphoné pour demander « Mais où ça se trouve, cette forêt ?» Puis, à la banque, il y aura sa rencontre avec un être merveilleux, un être, une Alice, elle s'appelle Alice, une jeune femme qui va s'éprendre totalement de lui, même devenue taiseux, respectant son don d'écriture, car elle voit bien qu'il écrit avec difficulté au départ, mais peu à peu, il insiste sur son écriture. De quoi en faire une pièce de théâtre, oui. Il y aura une pièce de théâtre qu'il assurera, pas la mise en scène, mais l'adaptation au théâtre, et qui sera jouée quelques années plus tard, avec succès à Paris. Mais le président Rostin, un personnage influent et important, qui est le père de Alice, donc qui dirige cette banque, ne comprend pas ce gendre et pousse Alice et Jean à rompre leur relation pour se marier avec un autre homme jugé sérieux et plein de promesses. Alors, je vais vous lire le quatrième de couverture, un passage du quatrième de couverture de ce beau roman, Une certaine raison de vivre de Philippe Torreton, qui vient de paraître chez Robert Allafont. C'est cette Alice qui s'exprime, parce qu'il s'envoie des lettres, et donc elle s'exprime dans une lettre. « J'ai toujours envie, dit-elle, de te gifler. Continue à écrire, et on va continuer à faire l'amour, puisqu'il n'y a que ça qui marche entre nous. Tu vas signer la paperasse de mon père. » Je vais avoir une autre vie, Jean. Mais dans cette autre vie, il y aura un tiroir secret. Et dans ce tiroir, il y aura toi. Et si un jour tu as quelque chose à me proposer, dis-le-moi. Ne regarde pas mes larmes. Elles ne veulent pas dire grand-chose. Écris, mon Jean. Surtout, n'arrête pas. J'aime que tu écrives. Je m'offrirai certaines de tes phrases, même si elles ne sont pas pour moi. Je suis jalouse de cette guerre qui te garde pour elle, qui te fait marcher seule. Je ne sais où, sans moi, sans ta femme. Je pense que je suis la seule veuve de guerre dont le mari est vivant et devant ses yeux. » N'est-ce pas que c'est superbe comme langage, comme écriture, comme langage d'amour? C'est vraiment merveilleux. Alors, le temps passe, et le président Rostin comprend bien que sa chère fille, Alice, est malheureuse dans ce nouveau mariage, dans ce mariage arrangé, je dirais. Et elle va donc accepter que Alice retrouve Jean. Surtout que la pièce de théâtre est donnée avec succès. Et puis, il y a aussi le fait que Jean Fournier a évolué quand même. Et ce qu'il veut, c'est emmener Alice avec lui. Il a compris que cet amour est plus fort que la raison. Et avec Alice retrouvée, Jean Fournier ira en montagne vers les cimes pourra sentir à son tour planter des arbres, voilà, et suivre l'exemple de Elzéar, ce berger qui lui avait un jour offert un autre regard sur les hommes et sur la vie. Ce qui sera pour tous, pour tous les deux, une certaine raison de vivre, d'où le titre de ce superbe roman de Philippe Torreton, Une certaine raison de vivre. Et Jean Giono, donc je vous en ai parlé, connu dans le monde entier pour son histoire devenue une réalité, avait écrit ceci que je vous lis. On a pu te dire qu'il fallait réussir dans la vie. Moi, je te dis qu'il faut vivre, il faut vivre. C'est la plus grande réussite au monde. Et ce beau roman reçoit un prix, le prix avant. Bon, je sais que le Goncourt va être donné, que tous les. Mais reçoit le prix du jury du festival Les Écrivains. Chez Gonzague Saint-Brice, le regretté Gonzague Saint-Brice était un des premiers à faire un festival dans son château. Et les écrivains donc, ont continué à travailler et à avoir un jury. Donc ce beau roman, Une certaine raison de vivre de Philippe Torreton, paru chez Robert Laffont, vient de recevoir cette distinction. Et on écoute une pause musicale. On écoute donc, j'ai choisi cette élégie que j'adore, une élégie de Sergueï Rachmaninov, interprétée par le poète du piano, vous savez, il s'appelle Alexandre Tarot. Quitte cette magnifique musique de Sergueï Rachmaninov pour parler des deux grands romans anglo-saxons que je voulais vous présenter. Le mois dernier, je vous avais parlé de Joyce Maynard, de son autobiographie qui avait été rééditée en format poche. Et voici donc, comme je vous l'avais annoncé, Où vivaient les gens heureux de Joyce Maynard, édité par son éditeur qui est Philippe Ray. Un nouveau grand roman de Joyce Maynard est un événement et nul ne parle aussi bien de la famille que Joyce Maynard. Voilà. Lorsque Eleanor, jeune artiste à succès, lorsque Eleanor, c'est le nom de son personnage principal, Eleanor, jeune artiste à succès, parce que dans sa solitude de fille unique, avec des parents assez âgés qui se sont aimés mais aussi chamaillés très souvent, qui se mettaient aussi à boire de l'alcool, ce qui n'arrangeait pas les choses, elle avait imaginé un personnage, une petite fille, Bodhi, qui lui ressemblait pas mais qui lui permettait de raconter pour le journal. À cette époque, en 1970, il n'y avait pas beaucoup, il n'y avait pas de télévision, ou très peu, il n'y avait pas. Donc les journaux avaient une grande importance. Donc elle avait raconté les aventures d'une petite fille qu'elle avait appelée Bodhi, qui n'a pas de parents, justement, puisque ses parents étaient le plus souvent absents, et qu'elle était seule dans sa chambre à écrire cette histoire. Donc cette petite Bodhi, qui n'a pas de parents, voyage dans le monde entier. Et elle va connaître un énorme et inattendu succès littéraire avec ce petit personnage, et plein de gens lisaient chaque semaine avec beaucoup d'attention ces histoires, et même en réclamaient d'autres. Ce qui va lui permettre d'avoir pas mal d'argent sur son compte. Elle va donc pouvoir acheter une maison dans la campagne, une ancienne ferme avec un petit lac pas très loin, des arbres, une forêt, dans la campagne du New Hampshire. Le New Hampshire est une région très appréciée par Joyce Maynard, donc elle le connaît très bien, donc elle en parle très très bien. Où elle cherche à oublier un passé difficile. Sa rencontre avec le séduisant Cam lui ouvre un nouvel univers animé par la venue de 3 enfants. Oui, tous deux avaient envie vraiment d'avoir des enfants et de ne pas attendre pour avoir des enfants. Donc les enfants arrivent, d'abord la discrète Alison, puis une deuxième fille, l'optimiste Ursula, et le doux Toby, voilà le plus jeune, son fils chéri. 2 filles et 1 garçon. Elle est comblée, Eleanor vit l'accomplissement d'un rêve. C'est ce qu'elle voulait, avoir des enfants, devenir mère. Elle semble prête à tous les sacrifices pour ses enfants. Cette vie au cœur de la nature, tissée de fantaisie et d'imagination, lui offre des joies inespérées. Malheureusement, avec le temps, entre Cam et Eleanor, la passion n'est plus aussi vibrante qu'au début de leur idylle. C'est un artisan désinvolte. Il fait des bols, hein, qu'il essaye de vendre dans des bols, qu'il essaye de vendre dans les marchés, mais il n'a pas grand succès. Et c'est elle qui va continuer par ses écrits, plus la petite Bodhi, parce que le temps passe, mais il y aura d'autres écrits, des cartes postales, des différentes choses qu'elle essaie de trouver. C'est elle qui, par ses écrits, fait cuire la marmite et qui s'occupe de l'éducation des enfants. Et un jour, survient un terrible accident. Son jeune fils, donc Toby, pourtant sous la garde de Cam, hein, Toby se noie dans un bassin. Il y avait un bassin où il faisait naviguer des petits bateaux et il se penche pour attraper un petit bateau, des bouts de bois qui servent de bateau. Et il se noie. Alors, c'est elle, Eleanor, qui le voit, qui veut le sortir de l'eau. Cam revient aussi. Et puis après un massage cardiaque, avec assistance du massage cardiaque de Cam qui lui fait, eh bien, Toby revient à la vie, mais il doit être emporté par des infirmiers, par des secouristes qui vont l'emporter à l'hôpital. Et il va perdre son agilité et la parole. Alors c'est vraiment une catastrophe. Et Eleanor accuse Cam. C'est lui le coupable de cette négligence. C'est la première grande rupture entre Cam et Eleanor. Puis, quelque temps après, alors qu'elle revient, qu'elle doit s'arrêter avec ses enfants aux abords de la forêt, à travers les arbres, elle aperçoit Cam en train d'embrasser Coco, une jeune babysitter qui vivait avec eux. Alors, c'est la rupture totale, c'est le divorce. Elle doit donc quitter cette ferme maison qui était pourtant son paradis, et ne voir ses trois enfants que le week-end. Allison, Ursula et Toby, qui vont la mal juger. C'est un crève-cœur pour elle, mais les enfants vont lui reprocher ce divorce, cette séparation, puisque c'est elle qui quitte cette maison où elle ne peut plus vivre, où elle était si heureuse, et qui va prendre un appartement et continuer son travail d'écriture, parce que c'est une nécessité pour elle, ce travail d'écriture, et puis parce que c'est ce qui permet quand même à la famille de subvenir, parce qu'on manque d'argent. Donc Joyce Maynard, dans ce roman bouleversant et singulier, car elle insiste sur les conséquences d'un tel événement dans la vie des enfants et dans son cœur de mère désarmé, le divorce, ça n'a jamais été une solution simple. Elle nous emporte dans des années 1970 à nos jours, avec l'évolution de la société. Je ne vous la décris pas, mais vous le verrez en lisant ce beau roman où vivaient les gens heureux de Joyce Maynard. L'évolution de la société, ces enfants qui vont grandir, mais avec leur ressentiment pour leur mère, mais aussi avec peut-être d'autres objectifs pour eux. Chaque saison apportant ses moments de doute ou de colère, de pardon et de joie. Le temps passe. Et de son fait, un nouveau traitement de Toby va lui permettre de retrouver la parole. Le père Cam avait découvert qu'en faisant du yoga, Toby arrivait un petit peu quand même à être un peu plus à l'aise dans ses mouvements. Mais c'est vraiment le nouveau traitement que Eleanor va trouver pour Toby qui va lui permettre de retrouver la parole et de parler. Et puis, à la fin, comme au début, on le sait, un mariage va arriver, celui de Allison. Je vous ne décris pas ce mariage. C'est pas mon but, vous le découvrez en lisant le livre, comment ce mariage va se passer. Mais ce que je peux vous dire, c'est que ça va permettre à Eleanor de retrouver sa place de mère et même de grand-mère au sein de cette famille retrouvée, puisqu'elle a sa petite fille Louise sur les genoux. Voilà pour ce grand roman où vivaient les gens heureux de Joyce Maynard, édité par Philippe Ray. Le deuxième roman, aussi anglo-saxon, c'est Les Sœurs du Titanic de Patricia Falvey, aux éditions Bellefond. Or, quelle belle écriture que celle de Patricia Falvé. J'avoue que je la découvre. Elle est née en Irlande du Nord. Elle vit à Dallas, donc aux États-Unis. Et au lendemain d'une longue carrière dans la finance, elle s'est tournée avec grande conviction vers l'écriture de romans historiques. Voilà. Ce qui fait que, ben, un peu comme Joyce Maynard, il y a un aspect historique très précis dans ses romans, dans ses livres. C'est le deuxième. Je suis en train de deuxième roman qui est publié en France. Et c'est tout à fait saisissant par le caractère de ces deux sœurs que tout sépare. Il y a Nora, l'aînée, qui est la fille adulée par sa mère, qui aime porter de belles robes, qui aime aller danser, mais attention, ne pas courtiser les filles, les garçons, je veux dire, dans les bals, parce que ces garçons sont plutôt pauvres. Hein. Donc, elle pense pour que sa fille, sa chère enfant, promise à devenir une belle vie. Et elle reçoit une lettre d'une personne qui lui écrit d'Amérique pour lui dire qu'elle cherche une gouvernante. Et donc, c'est Nora, toute désignée, qui sera cette gouvernante en Amérique, dans une riche famille américaine. Delia, elle, c'est la cadette. Elle est rejetée par sa mère. Bon, il y a eu une difficulté là parce que il y a eu des jumeaux, garçon et fille, des faux jumeaux, et le garçon est mort très à la naissance presque, et la mère en veut à Delia, elle, d'être vivante alors que le garçon est mort. Mais heureusement, son père aime Delia. Qui le seconde dans l'exploitation de la ferme, parce qu'ils ont une ferme, des vaches, des... Son père, qui la soutient, qui est plutôt taiseux, mais va prendre la parole, et elle va dire, ben, il faut que les deux, Nora et Delia, partent toutes les deux en Amérique pour trouver un travail. Même si le travail que Delia devrait avoir est un travail de boniche. Voilà. Mais c'est une bonne lectrice, c'est elle qui est l'esprit éveillé de la famille, cette Delia. Elle est très, très, très riche de caractère. Alors, nous sommes en 1911, elles doivent donc toutes les deux quitter leur Donegal natal et qu'il crosse le village dans lequel elle vivait pour embarquer sur le Titanic. Donc il y a le voyage pour aller jusqu'au port et embarquer sur le Titanic. Mais ce voyage va changer totalement leur vie, car contre toute attente, le 11 avril 1912, le Titanic va sombrer, comme vous savez. Vous vous souvenez peut-être plus de la date, mais c'est le 11 avril 1912 que le Titanic va sombrer corps et bien. Alors les deux sœurs, comme c'est des filles, des jeunes filles, hein, on va les aider à gagner les embarcations de sauvetage, mais séparément, parce que déjà sur le bateau elles n'étaient plus ensemble, parce que l'une voulait voir la vie des grands alors que l'autre restait à lire dans sa cabine. Donc, mais séparément, elles vont se perdre de vue dans le tumulte que ça représente. Vous imaginez, pluie, vagues et vent, et les embarcations, tout ça. Donc, seule Delia semble sortir miraculeusement, alors que Nora va compte parmi les nombreuses victimes. Delia, en arrivant sur les docks de New York, suivant son instinct, c'est elle qui allait l'aide d'engagement, car elle avait, c'est elle qui avait la sacoche, donc, dont il y avait tout, toute leur documentation, et elle a gardé cette sacoche avec elle, elle l'a embarquée sur les embarcations avec elle, comme si c'était un trésor. Et donc, elle a effectivement cette lettre d'engagement. Et quand elle se présente à l'un et à l'autre, elle fait un choix. Et ce choix, c'est de prendre la place de gouvernante promise à Nora, puisque elle imagine qu'elle a sombré dans l'embarcation, dans la mer, qu'elle est tombée de l'embarcation dans la mer. Donc elle s'attache, voilà. Et elle va s'attacher, et c'est prendre même, peu à peu, de son employeur, un veuf séduisant, qui s'appelle Aidan O'Hanlon. Et à la petite fille de celui-ci, il a une petite fille, Lily, une gamine qui n'a plus sa maman, qui va vite s'attacher aussi à Delia. Elles dessinent toutes les deux, elle fait la lecture, elle fait tout ça. Et vraiment, elle va devenir une nouvelle maman pour Lily. Mais voici la grande question que se pose Delia. Peut-elle vivre dans le mensonge? Surtout qu'un camarade irlandais, Dom de Nelly, qui avait été aussi sur le bateau, qui était venu en Amérique, elle l'a reconnu, elle avait dansé avec eux, avec comme Delia et non comme Nora, qu'il connaissait aussi et qui aimait danser avec lui. Donc, avec ses sentiments pour Aidan, Delia, dit Nora, se pose la question, il faut qu'elle parle quand même à Aidan et à Lily et dire que qui elle est vraiment. En fait, Nora a survécu, mais elle est amnésique. Elle est recueillie par une grande personnalité, Madame Shaw, qui va vraiment l'aider, la protéger et même, on peut dire, l'aimer. C'est une conductrice, parce qu'elle a une voiture, elle roule trop vite et il y aura des risques que je ne vous présente pas, mais qui sont bien dans le livre. Alors, en cette période, nous avançons dans le temps. Nous sommes en 1913 et puis en 1914. Aidan O'Hanlon, qui s'oppose à son beau-père, un homme puissant et influent, qui lui reproche la mort de sa fille, de la mère de Lily, de sa fille, se retrouve au Texas et à Dallas afin de creuser des puits de pétrole. Oui, c'est le début de cette grande aventure, période d'enrichissement, mais aussi de rivalité entre chercheurs. Des rivalités très rudes. Parce que le beau-père a des agents qui veulent ruiner Aidan. Alors les deux sœurs, Nora et Delia, se retrouvent. Et elles ont changé l'une et l'autre. Elles vont vraiment s'allier pour déjouer les pièges tendus à Aidan O'Hanlon et à ses véritables amis. Voilà. Je n'en dis pas plus, mais vous découvrirez tout cela dans cette belle intrigue pleine de rebondissements. Oui, à vous de vous plonger dans ce beau roman. Et on écoute un petit peu de musique, quelques accents de cet aria, avant de passer au cinquième roman, Revenir à toi, que je veux vous présenter aussi. Thank you. Revenir à toi, le cinquième roman que je vais vous présenter, de Léonore de Recondo, qui vient de paraître chez Grasset. Je retrouve toujours cette grande romancière pour moi avec plaisir, un plaisir immense. Et elle commence ce nouveau roman par un poème de Charles Julliez, qui dans un fût dit ceci: « Revenir à toi, à ta lumière, effacer ces journées rongées par ton absence. » Pour Charles Julliez, c'est sa mère, sa chère maman. Après sa naissance, elle a été malheureuse et puis déprimée, et puis elle a été internée même à la Madeleine, où elle est morte. Pendant la Seconde Guerre mondiale, là aussi, les conditions n'étaient pas superbes pour les malades. Donc, revenir à toi, à ta lumière, effacer ces journées rongées par ton absence, parce que Charles Julliez s'est accusé de la mort de sa mère, de cette absence. Et dans ce roman très important, « Revenir à toi » de Léonore de Recondo, eh bien, il y aura une quête. « Revenir à toi, à sa chère maman », parce que son personnage, Magdalena, devenue comédienne et actrice, malgré une enfance tout à coup difficile, qui doit interpréter pour le théâtre le personnage Antigone. Ce personnage l'a sauvé, celui d'Anouilh, l'Antigone d'Anouilh, de Jean Anouilh, le premier personnage à l'avoir percuté de plein fouet, qui est devenu son ami, son autre, et qui va lui permettre de survivre à la disparition brutale, soudaine de sa mère. Donc, au début de ce roman, Magdalena reçoit ce message « On a retrouvé ta mère ». Ce message vient de son agent qui s'appelle Adèle. Tout d'abord, elle ne peut y croire. Puis elle va quitter Paris, qui était une répétition de cette pièce de théâtre. Et par le train, elle va se rendre vers l'adresse indiquée, au sud-ouest de la France, une maison éclusière à Calonge, sur le canal latéral, dans le Lot-et-Garonne, d'où elle est issue. Pendant 30 ans, elle a vécu sans rien savoir. Son père Isidore n'était presque jamais là. Et puis ses grands-parents qui l'ont élevé, Marcel et Michel, n'ont rien pu lui dire, n'ont rien su lui dire. Le pourquoi de cette absence soudaine. Elle, Apollonia, sa mère, si belle, arrivait devant la maison. Donc, elle est arrivée devant la maison fermée. Magdalena repart à la recherche du décathlon le plus proche. Heureusement, elle tombe sur un employé efficace, beau et souriant, qui s'appelle Jordan, et qui lui indique tout ce qu'il lui faut pour camper. Elle va donc planter sa tente tout à côté de la maison, en attendant le retour de sa mère. Puisqu'elle est vivante, il n'y a pas de raison qu'elle ne revienne pas. Et lorsque celle-ci apparaît, muette, elle ne voit que ses jambes en sortant de la tente, qu'elle ouvre sa maison, c'est un taudis indescriptible, avec des chats qui courent partout, alors qu'Apollonia est allongée. Alors, peu après, elle rentre quand même dans ce taudis. Apollonia est allongée, amorphe sur le lit, et Magdalena comprend qu'il faut qu'elle nettoie d'abord la salle de bain afin de pouvoir prendre un bain, et même de nettoyer sa maman. C'est la première fois qu'elle la voit et qu'elle la met, la voit nue dans la baignoire, dans la salle de bain pour la laver. Et puis après, ce sera la cuisine, et puis après, la salle principale, et puis la chambre de sa mère. Alors peu à peu, la mère et la fille vont apprendre à s'apprivoiser. D'abord, au départ, c'est un impossible dialogue. Mais les gestes se font, et le chuchotement, comme une belle musique, une belle litanie. Parce que Léonore de Recondo est aussi musicienne, donc il y a ce sens musical dans son écriture, dans son livre. Elle revisite leur enfance, peuplée d'absence et aussi d'une tragédie, qui fait que Apollonia, donc la chère maman, est partie et a été soignée à Cadillac. Oui, les enfants de Cadillac, le premier roman que je vous ai présenté, eh bien, on retrouve, c'est le hasard qui fait bien les choses. Donc, Apollonia, sa maman, a été soignée à Cadillac, mais ce n'étaient plus les mêmes conditions que pendant la guerre de 14 ou même après. Elle a été quand même bien soignée, ce qui faisait qu'elle revenait dans sa maison. Voilà. Et qu'une soignante, enfin une assistante sociale, venait chaque semaine lui apporter des médicaments qu'elle devait prendre, en lui indiquant qu'elle devait prendre et qu'elle prenait. Voilà. Alors je vous lis un passage de ce beau roman, de cet intense roman, pour vous faire comprendre, d'abord pour vous faire saisir l'écriture de Léonore de Recondo, et puis la situation dans laquelle les choses se passaient. Je suis là, tu me vois, non ? Des décennies à essayer de t'oublier. Tu étais une braise dans ma mémoire, et je voulais qu'elle se consume le plus lentement possible. Qu'elle ne détruise pas tout d'un coup de flamme, lance-flamme, roquette, ce que tu voudras. Qu'elle ne détruise pas tout ce qui l'entourait. J'en ai pris des chemins de traverse pour éviter le moindre mouvement, pour t'éviter. Je croyais que tu rentrerais pour moi, parce qu'on ne quitte pas sa fille. On ne te l'a jamais dit ? On ne quitte pas ses enfants. On reste. On m'a répondu que tu étais parti te reposer. Te reposer ? Te reposer de quoi ? Qu'est-ce que tu faisais en haut ? À part te reposer. Le lit n'était pas assez grand ? On te dérangeait peut-être ? J'ai cru à une blague. Et j'ai compris que non. Et après, je n'ai plus rien compris du tout. Je pleurais. J'étais en colère. Tout le monde me mentait. Pourquoi on me mentait comme ça ? Pourquoi on me mentait comme ça ? J'ai cru que c'était ma faute, que je devais le mériter. Quelque chose qui ne tournait plus rond. Un boulon qui avait dû sauter et tout l'engrenage s'était grippé. J'ai cru que j'étais le boulon. J'ai tout fait pour penser à toi, le moins possible. Partir à Paris, faire du théâtre, ne presque plus parler à Isidore, à Marcel et Michel. Tu t'en fous de savoir ce qu'ils sont devenus. J'ai coupé les ponts. Tu avais décidé de me laisser seul. Alors autant l'être avec ceux que je choisirais. Mais comment choisir quand on se sent insignifiant ? je me trompais d'amis, d'histoire d'amour. Ça venait confirmer les raisons de ton départ, lui donner même de bons arguments. Pourquoi serais-tu resté pour si peu? J'avais le droit d'être mes rôles, c'est tout. Sur scène, j'étais libre. Partout ailleurs, enfermé. Ce serait trop simple de réduire mes échecs à ton départ. Ce serait trop simple de dire que je ne suis jamais autorisé à aimer parce que tu étais parti. J'arrête là cette belle lecture. J'espère que vous avez été sensible à ce style inimitable de Léonore de Recondo. Donc, peu à peu, l'une et l'autre vont apprendre à se connaître, à s'aimer, à s'apprivoiser. Je ne vous dis pas, il faut le découvrir en lisant ce livre, ce roman, « Revenir à toi » de Léonore de Recondo, qui vient de paraître chez Grasset. Donc c'est vrai que je ne dis pas ce qui a été la rupture, ce qui a fait que Apollonia a déprimé et a dû partir, a abandonné sa chère enfant, car il y a eu une annonce de quelque chose de terrible, voilà, qui permet, lorsqu'elle va le savoir, Magdalena, sa fille, à mieux comprendre le pourquoi et le comment de sa mère. Hommage au grand mythe littéraire qui nous façonne. Revenir à toi est une nécessité qui tisse le silence et les mots en une magnifique réconciliation avec l'autre et avec soi-même. Un langage que seul Léonore de Recondo a pu restituer si bien. Voilà, je vous laisse. Avec cette belle histoire. Donc, je vous redis qu'il y a eu comme roman dans cette émission Les enfants de Cadillac de François Nudelman, qui est paru chez Gallimard, Revenir à toi, une certaine raison de vivre de Philippe Torreton, qui est paru chez Robert Laffont, Où vivaient les gens heureux de Joyce Ménard chez Philippe Rey, Les sœurs du Titanic de Patricia Falvé chez Belfond éditeur, peut-être, je ne l'avais peut-être pas dit, je le regrette, et puis Revenir à toi de Léonore de Recondo chez Grasset. Voilà, 5 lectures totalement édifiantes à lire et à commenter, si vous le voulez bien. Et je vous dis au mois prochain.